Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va se demander ce soir comment sortir des violences policières avec Fabien Jobard et Bernard Thibault. Des voix de plus en plus nombreuses, de divers horizons de la société française, expriment leur indignation, voire leur consternation, devant la recrudescence des violences policières. Comment en est-on arrivé là? Comment la France, qui s'enorgueillissait d'être exemplaire en la matière, s'est-elle retrouvée en queue de peloton des pays européens? Il est urgent de comprendre ce qui s'est détraqué en reprenant l'histoire récente du maintien de l'ordre et en se demandant comment sortir de ce fléau qui fait monter la pression sociale, menace le droit de manifester et abîme l'image de notre pays. C'est le débat que je vous propose ce soir en compagnie de Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013 et qui est aujourd'hui administrateur du Bureau international du travail à Genève, et Fabien Jobard, directeur de recherche au CNRS et qui vient de signer avec Olivier Filleul un livre intitulé « Politique du désordre, la police des manifestations en France ». Bonsoir Bernard Thibault, bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Bernard Thibault, pour vous avez été un témoin privilégié de cette histoire des manifestations et du maintien de l'ordre. Vous avez aussi été un acteur direct en tant que secrétaire général d'un syndicat majoritaire dans notre pays. Comment vous voyez-vous l'évolution du maintien de l'ordre ces dernières années, disons ces dernières 30 ans?
Écoutez, c'est une évolution qui est très préoccupante et qui d'ailleurs provoque les débats actuels quant à savoir ce qu'il en est du droit de manifestation, du droit de revendication, voire du droit de faire grève. Je rappelle que des polémiques pas si lointaines posaient cette question dans les débats politiques notamment, alors que ce sont des droits dans notre pays, qui sont censés être garantis par la Constitution. Mais les conditions dans lesquelles ce droit se déroule se dégradent, d'où ces débats, à mon avis, tout à fait légitimes et nécessaires quant aux conditions dans lesquelles on peut assumer exercer un droit constitutionnel et, en l'occurrence, quelle doit être l'attitude des forces de police qui sont là. Il faut sans doute y insister pour exécuter des ordres.
Mais Bernard Thibault, comment ça se passait avant, si je puis m'exprimer ainsi, il y a 20 ans, plus de 20 ans, la CGT organisait une manifestation, elle l'encadrait, vous négociez le parcours avec la préfecture de police, comment ça s'organisait concrètement?
À ma connaissance, ça se fait toujours, c'est-à-dire que des organisateurs de manifestations, pas uniquement des organisateurs syndicaux d'ailleurs, sont tenus de déclarer une manifestation et, normalement, dans un dialogue dit constructif avec les autorités préfectorales, il y a effectivement une négociation qui consiste à se mettre d'accord sur les horaires, les parcours, les conditions. Et ces dernières années, d'ailleurs, c'est un dialogue qui a eu plus ou moins de succès. Et parfois, le choix de parcours a pu compliquer le déroulement d'une manifestation. Ou le refus de tel autre a pu aussi compliquer. Alors, dans les souvenirs, peut-être une anecdote, il se trouve que j'étais jeune cheminot un certain 23 mars 1979, ça rappellera peut-être des souvenirs aux plus anciens des auditeurs. Le 23 mars 1979, c'était la grande marche des sidérurgistes à Paris, puisqu'on était confronté à cette époque-là au plan de fermeture de la sidérurgie lorraine, et une vaste mobilisation s'était organisée pour monter à Paris, venant des différents bassins concernés. Ça avait été une manifestation très très violente, mais ce pourquoi je m'en souviens notamment, c'est aussi parce que je jouais un rôle dans l'organisation des trains spéciaux qui étaient organisés au départ de la gare de l'Est pour accueillir ces sidérurgistes, ou une partie d'entre eux, mais c'est aussi ce jour-là que le service d'ordre de la CGT avait pris la main dans le sac, si je peux dire, un casseur qui se trouvait posséder dans sa poche arrière une carte de police.
Ah.
Et ça a valu d'ailleurs un livre, ça a valu plusieurs, naturellement plusieurs commentaires. C'est dire que il peut aussi arriver parfois des manipulations de ce type-là.
Et, ça vous a choqué, bien sûr.
Au début du siècle, tous les mouvements sociaux ont été traversés par ce genre de, je dirais, de manipulation, c'est-à-dire des opérations consistant à faire dériver un événement, une manifestation, pour que l'objet du débat ne soit plus la revendication à l'origine de la manifestation, mais l'ambiance qui caractérise la manifestation. Et dès lors qu'il y a du mécontentement, parce que s'il y a manifestation, il y a du mécontentement, voire même parfois de la colère, ça n'est pas forcément très difficile de faire déraper un événement de cette nature.
Fabien Jobard.
Oui, on retrouve dans cette anecdote la présence d'un provocateur policier au sein des forces qu'on appelait à l'époque les autonomes, destiné donc à provoquer de la casse et de l'affrontement général au cours de la manifestation. On retrouve le double visage au fond de la police et de l'autorité préfectorale. D'un côté, ce sont les forces de l'ordre qui ont en charge d'assurer le bon déroulement de la manifestation et de protéger les manifestants. De les protéger, par exemple, évidemment, de riverains ou d'automobilistes, surtout mécontents, de contre-manifestants, de les protéger d'eux-mêmes. Et en même temps, bien sûr, cette police qui agit comme facilitateur des manifestants, des manifestations, est aussi la police du gouvernement, la police du pouvoir, et donc
qui est visée par la récrimination, visée par la manifestation,
qui est visée par la manifestation, et donc il est facile de faire jouer, d'instrumentaliser la police et de lui faire jouer un rôle cette fois-ci politique par diverses tactiques, diverses méthodes. L'agent provocateur est une de ces figures. Il y a d'autres tactiques concevables, par exemple, ne rien faire, attendre. Laisser des désordres se dérouler afin de viser le pourrissement de la situation, et donc la démonstration, comme le disait d'ailleurs Bernard Thibault, que les manifestants, les organisations sont incapables de gérer leurs propres troupes et que au fond ces revendications, si elles étaient satisfaites, eh bien satisferaient des troupes anarcho-autonomes ou que sais-je.
Mais Bernard Thibault, une manifestation, la manif traditionnelle, qui avait un côté un peu ritualisé, on manifestait, mais à la fin, il y avait un dénouement politique. Si ce n'est pas un dénouement, il y avait un dialogue politique à la fin de la manif.
Ben, je crois effectivement qu'un des éléments qui peut expliquer en partie les dérives que nous constatons aujourd'hui, c'est la faiblesse, la perte de crédibilité de manière délibérée que l'on donne à la négociation sociale. Pendant des années, certains pourraient appeler ça des rituels, mais lorsque des manifestations étaient très importantes, d'une manière ou d'une autre, il y avait un dialogue entre le pouvoir politique, les représentants, ça pouvait être des représentants syndicaux, ça pouvait être des représentants de mouvements, pour examiner le sujet à l'origine de la manifestation. Sauf à être confronté à un gouvernement, et il s'en est présenté, particulièrement autoritaire, disant « quoi que vous fassiez, je continue ». Et progressivement, ça a été la posture politique successive de plusieurs chefs d'État, de plusieurs chefs de gouvernement. Je suis droit dans mes bottes pour évoquer, par exemple, 95.
C'est tournant le 95.
Je suis fort dans mes bottes. C'est ça. Droit dans mes bottes.
Si on évoque Bernard Thibault, le mouvement de 1995, certes, Alain Juppé n'a eu de cesse de répéter qu'il était droit dans ses bottes, mais c'est bien lui qui a dit « si le mouvement fait descendre 2 millions de personnes dans la rue, alors nous retirerons notre projet ». Et c'est ce qu'il a en partie fait.
Et nous on avait appelé, rappelez-vous à l'époque, le Juppéton, puisqu'en plus on était à cette période dans les premiers jours de décembre. qui correspondait aussi à l'opération Téléthon, auquel d'ailleurs les grévistes, certain nombre de grévistes avaient apporté leur concours.
Oui, tout à fait. Et cette déclaration d'Alain Juppé, qui au fond concède un pouvoir propre à la manifestation, un pouvoir propre au nombre, nous l'analysons comme une source de traumatisme pour l'ensemble des gouvernements qui ont suivi. Qu'ils soient de gauche ou de droite, ils n'ont eu de cesse de répéter que la rue ne gouvernera pas. Que, au fond, le lieu unique d'élaboration de la loi en France, c'est le Parlement, c'est-à-dire la majorité gouvernementale. Et qu'il s'agisse de Jean-Pierre Raffarin, 2003, mouvement de protestation contre les retraites, qui a été un mouvement très long, très dur, qui a amené énormément de monde dans la rue, en passant par Nicolas Sarkozy, François Hollande, et également Emmanuel Macron, l'antienne a été « la rue ne gouverne pas ». Autrement dit, tous ont pris le contre-pied d'Alain Juppé, qui, lui, reconnaissait encore au pouvoir du nombre la faculté de pouvoir amender, de pouvoir réorienter, de pouvoir éventuellement aussi bloquer des projets de loi. Et ça s'est perdu. Et à notre avis, Olivier Filliol et moi, c'est un des aspects majeurs de la perte de sens de la manifestation et le recours à d'autres formes de protestation.
C'est ça, d'autres formes de protestation. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Bernard Thibault?
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, mais qu'on me permet de considérer que c'est une vision très particulière de ce que doit être notre démocratie, que de considérer qu'une fois des échéances politiques qui ont naturellement toute leur légitimité dans une démocratie, de procéder par élection, à la fois l'élection de ses représentants à l'Assemblée, l'élection en France au suffrage universel du président de la République, de considérer qu'il n'y a plus de débat à l'issue de ces consultations. Notre démocratie intègre aussi ce qu'on appelle la démocratie sociale, qui n'est pas en opposition à la démocratie politique, mais qui fait partie intégrante de la démocratie au sens large. Et ça, c'est ce qui m'amène, quand on compare à 95, remémorons-nous aussi que l'équilibre des responsabilités était très différent entre un président de la République, à l'époque Jacques Chirac, et un premier ministre Alain Juppé.
Bien sûr, bien sûr.
Et d'ailleurs, je crois, et je n'ai pas de secret élyséen pour vous dire ça, mais je suis convaincu que, tout en soutenant à l'origine le plan présenté par son premier ministre sur la sécurité sociale, c'est Jacques Chirac qui, à un moment donné, a dit il faut qu'on arrête, ça ne peut pas continuer comme ça.
C'est ça. Mais
aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration politique-là, puisque on en est même à attendre dorénavant à ce que ça soit le président de la République qui nous précise les termes de l'autorisation écrite qu'il va nous falloir posséder pour sortir après 20h.
C'est ça, mais la manifestation a changé de sens. Et vous écrivez, Fabien Jobard, dans votre livre, cette phrase qui est quand même très... quoi, qui donne à penser. Le politique ne considère plus le moment manifestant comme celui d'un échange politique, mais comme l'occasion de mettre en scène le pouvoir face au désordre.
Oui, ce qu'on a effectivement relevé en examinant 30 ans, 40 ans de manifestations en France et de rapports entre les manifestations et les gouvernements successifs, c'est que au fond, la manifestation qui est acceptée est une manifestation qui ne vient pas bousculer l'agenda gouvernemental, l'agenda politique. La manifestation qui a pour fin de peser sur la discussion législative, elle est de manière de plus en plus vive, rejetée comme n'ayant plus légitimité dans le jeu politique. Et ça, c'est une mutation très forte. Donc, on remarque effectivement que des manifestations sur des grandes causes suscitent l'unanimité posent rarement des soucis par exemple, une manifestation de protestation contre le réchauffement climatique.
Ou après les attentats de Charlie, où c'était bien même sûr. Pas une manifestation.
Alors, c'était les attentats une de Charlie, c'est une alors, effectivement, c'est une forme plus singulière encore, puisque c'est une manifestation à laquelle participaient les gouvernements eux-mêmes.
Ça, c'est ça. Hein. Et des chefs d'État, des étrangers,
absolument.
Etc.
Donc, dans un renversement un peu curieux de la manifestation. Mmh. La manifestation, c'est un acte de protestation contre un état de fait ou contre des gouvernements en place. Donc ces manifestations unanimes, au fond, conservent leur caractère tout à fait pacifique. La négociation qu'expliquait Bernard Thibault entre l'autorité préfectorale et les organisations. Mais les tensions sont de plus en plus précoces, de plus en plus vives lorsque la manifestation tente de s'immiscer dans l'élaboration de la loi.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de nature des groupes protestataires, c'est-à-dire la volonté de déborder? Alors je me tourne vers vous, Bernard Thibault. Ça veut dire que c'est aussi une évolution des rôles des syndicats, dans lesquels les syndicats ont été contestés. Et on a vu dans les manifestations et des formes de colère, vous disiez tout à l'heure, beaucoup plus que de protestations d'ailleurs, de manifestations qui sortaient elles aussi de l'échange politique.
Oui, parce que je pense que l'attitude, la posture politique dominante a contribué à affaiblir la représentativité des syndicats. Ça n'est pas le seul facteur. Les syndicats ont sans doute aussi leurs propres responsabilités pour être les plus représentatifs possibles des opinions, en l'occurrence des salariés. Étant syndicaliste salarié, vous comprenez que ça soit ce groupe qui m'intéresse. Mais c'est aussi une règle plus générale. Dès lors que les initiatives, ou par exemple les manifestations syndicales, on avait pendant très longtemps, et on a encore, un vieil adage consistant à dire, dans une manifestation, c'est le nombre qui va faire la force.
C'est ça. Ben oui.
Mais avec ce qu'on vient de décrire, au fil des ans, ce vieil adage a perdu toute crédibilité, puisque, quel que soit le nombre, les choses sont maintenues en l'état et on maintient le projet initial, quoi qu'il se passe, en quelque sorte, dans la rue. Donc, d'aucuns ont considéré qu'il fallait, alors à tort ou à raison, chacun peut avoir son opinion, mais procéder d'une autre manière. Et à partir de là, on peut voir de multiples initiatives, sachant que dans le même temps, le côté communication, le côté média a aussi beaucoup changé.
Ben oui,
aujourd'hui, pour faire parler de votre cause, il faut trouver un mode d'expression qui attirera les médias, et singulièrement les médias qui font soi-disant de l'information en continu, ce qui n'est pas, de mon point de vue, totalement de l'information, mais seulement de la transmission immédiate d'événements sans analyse et sans aucun recul. Donc c'est le côté spectaculaire.
C'est ça. Fabien Jobard, vous parlez des médias et des médias en continu, mais il n'y a pas que, il y a cette circulation des images, les réseaux sociaux, ça a pris des proportions considérables. Et vous dites, c'est le premier définisseur de l'événement. Les médias mettent en scène, les médias rendent, en substituent à un discours politique une image. Et l'image d'une violence, donc il y a quand même un changement du narratif à l'iconique, on peut dire, à l'image. Et puis, il y a cette idée que ce sont les médias, et non plus le nombre, et non plus la représentativité syndicale, qui font le cœur de la manif, le sel de la manif, le sel spectaculaire de la manif.
En fait, la manifestation, elle a quand même pour propriété que elle est à la fois un événement qui se déroule sur le pavé de nos rues, et elle est, dans le moment même de l'événement, un récit sur l'événement. Et donc, on assiste au fond à deux fronts de lutte. Le premier, c'est ce qui se passe dans la rue, et avant tout, le mouvement est-il capable de mettre du monde dans la rue, donc de peser, de faire nombre. Et puis le deuxième front, c'est celui qui porte sur l'interprétation des événements, et notamment sur la représentativité des gens qui défilent. Est-ce que c'est une protestation de groupes d'intérêt particulier ou bien cette protestation est la voix de l'ensemble des Français. On se souvient très bien du rôle que jouaient en 1995 puis en 2003 sur les retraites les fonctionnaires dont on disait qu'ils manifestaient pour l'ensemble de ceux qui ne peuvent pas manifester.
Ils étaient les délégués du privé finalement.
Absolument. Oui. Et donc on voit bien qu'il y a la question de la représentation démocratique se joue également dans l'acte même de manifester. Et puis bien sûr, quelles sont les interprétations, quel est le récit qui va être fait des éventuels débordements, des éventuelles violences. Cette compétition ou cette coexistence du récit et de l'événement, on l'a dès les premières manifestations. La singularité du jour, c'est que, bien sûr, l'événement est démultiplié par l'ensemble des caméras qui filment, qui transmettent, qui retransmettent en même temps que l'événement se déroule et auxquels s'ajoutent les commentaires.
Et qui circulent dans le monde entier. Mais est-ce que avec les émeutes urbaines, qui a été quand même là aussi un tournant, qui a marqué un tournant, est-ce qu'on n'est pas en face de violences éparses, sporadiques, qui ne sont qu'événements sans récit? Alors, je pose la question à Fabien Jobard, ensuite, et Bernard Thibault.
Les émeutes urbaines n'ont pas été tant que cela sans récit. Simplement, c'est un récit qui se déroule dans d'autres arènes. Je veux dire, le rap, par exemple, les émeutes urbaines ont été mises en musique, mises en récit, mises en film. Le film La Haine est un récit possible qui rend compte d'émeutes, par exemple, de celle de Mantes-la-Jolie en 1991, de celle de Chanteloup-les-Vignes à l'époque. Simplement, ce sont des récits qui sont sans doute plus éloignés des médias traditionnels que ne le sont les récits sur les manifestations traditionnelles. Mais toujours, la violence s'accompagne de mise en récit.
Plier les réverbères comme des fétus de paille.
Plier les réverbères comme des
fétus de paille. Les bancs. Descendez les flics, camarades. Descendez les flics. Plus loin.
Descendez les flics.
Plus loin vers l'ouest où dorment les enfants riches et les putains de première classe.
Loin vers l'ouest.
Dépasse la Madeleine.
Les enfants riches et les putains de première classe.
Reviendra au bois de Boulogne en semaine.
Le fureur balaye l'Elysée.
Tu feras sauter l'arc de triomphe.
Reviendra au bois de Boulogne en semaine.
Connais ta force.
Un jour tu feras sauter l'arc de triomphe.
Connais ta force et déchaîne-la.
Connais ta force.
Prépare son jour. Il attend son heure, sa minute.
Prépare son jour.
La seconde
où le coup porté
sera mortel.
La seconde où le coup porté sera mortel.
Et
la balle à ce point sûr que tous les médecins sociaux fascistes penchés sur le corps de la victime auront beau promener leurs doigts chercheurs sur la chemise de dentelle, ausculter avec les appareils de précision son cœur déjà pourrissant, ne trouveront pas le remède habituel.
Ne trouveront pas le remède habituel. Et tomberont aux mains des émeutiers.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Et qui porte ce soir sur les violences policières avec Bernard Thibault et Fabien Jobard. Fabien Jobard qui a décidé de nous faire écouter cet air. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Je ne peux pas totalement, je ne sais pas d'où il vient. Je sais qu'il s'agit d'une musique électronique d'un groupe qui s'appelle Italo Boys et qu'il s'agit d'un détournement d'un poème très important dans l'histoire de la littérature communiste, un poème de Louis Aragon, Front Rouge, 1931, pour lequel Louis Aragon avait été poursuivi à l'époque pour appel au meurtre. Et c'est un détournement sur fond de musique électronique qui accompagne aujourd'hui sur Internet des images de des manifestations des Gilets jaunes, de l'arrestation notamment d'une jeune femme. Et on voit comment le récit, proprement d'ailleurs ici, le récit littéraire, la mise en musique,
détourné.
le détournement fait partie de l'histoire de la manifestation et que la manifestation est un événement qui se joue sur le pavé, mais c'est un événement qui se raconte, qui se transmet, et les usages de la manifestation font partie de nos imaginaires politiques.
Mais je vois quand même une différence, et je sais pas, je serais curieux de savoir ce qu'en pense Bernard Thibault, c'est-à-dire que ce que vous nous dites sur les manifs de la CGT pour les retraites ou par exemple pour la sidérurgie, c'est-à-dire c'est des manifestations qui devaient alimenter, qui visait le contrat social entre les générations du pouvoir. On était dans un univers politique. Alors que, avec cette musique, avec ce rap et avec les paroles qu'on a entendues, on est plutôt dans la dénonciation d'une fracture sociale, d'une distance sociale, Bernard Thibault.
Oui, mais on reconnaissait en d'autres périodes, on reconnaissait ce que disent nos textes, encore une fois, à savoir que tout travailleur, par exemple, a le droit de constituer avec ses collègues des organisations professionnelles. C'est vrai pour les salariés, c'est vrai pour les employeurs, c'est vrai pour les professions libérales. Nous sommes en France, dans un pays où le droit syndical est codifié, est organisé, est censé être protégé, et en même temps, il n'y a qu'à propos des salariés qu'on pose la question de cette légitimité. La répression antisyndicale est quand même un lot quotidien dans nombre d'entreprises. Donc on a porté préjudice au rôle constitutionnel des syndicats, consistant notamment à organiser dans un cadre collectif et démocratique l'expression d'aspirations sociales, l'expression de revendications, et je pense que dans une démocratie, on peut admettre l'idée que l'on doit, que l'on puisse dénoncer ce qu'on estime être des injustices, soit au regard de ses conditions de travail, soit au regard du fonctionnement. Et c'est ça qui est aujourd'hui nié en termes de rôle, je dirais, constitutionnel d'organisation constituée. Donc, naturellement, les colères, elles doivent chercher d'autres voies, d'autres moyens. Encore une fois, chacun peut avoir sa libre opinion quant à savoir si c'est opportun, le bon canal ou pas. Mais ça n'est pas surprenant dès lors que ce qui est prévu par nos textes est nié dans la pratique.
La colère doit se terminer dans un échange. C'est l'idée, Fabien Jobard.
Olivier Filliol, qui est spécialiste des mouvements sociaux, remarque dans le livre qu'on a publié, hein, qui est un peu vient ponctuer 25 ans de recherche de la part d'Olivier Filliol et moi. Il remarque que on trouve de moins en moins de manifestations en France qui s'achèvent par la réception d'une délégation par ministère. Oui. C'est quand même un geste très important que de recevoir une délégation.
Elle cherche plutôt à casser ou à menacer le ministère, alors, ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes.
Oui, alors, cela étant, recevoir une délégation, c'est d'abord désigner la manifestation et les manifestants comme des interlocuteurs légitimes. C'est aussi pour les manifestants se fixer une fin, à la fois une fin temporelle. Nous quitterons la rue lorsque la délégation sera reçue. Et puis une finalité. Et la finalité, c'est le dialogue ou la restauration du dialogue politique. Il est vrai que si on compare l'image des délégations reçu rue de Grenelle ou ailleurs par les différents ministères, avec l'image de la porte d'un ministère, celui du porte-parole du gouvernement, enfoncé par les Gilets jaunes, on prend la mesure de la transformation du rapport entre gouvernement institué et manifestation en France.
Et Bernard Thibault, est-ce que le moment le plus délicat d'une manifestation, c'est pas précisément au moment de la dispersion, c'est comment on met un terme, on réveille, on associe, si on agrège de la revendication et avec une certaine colère, comment est-ce qu'on y met fin? Comment est-ce qu'on trouve un dérivatif?
Non, mais en général, le déroulement d'une manifestation est connu par les manifestants eux-mêmes. Et personne, je crois, dans la plupart des cas, ne s'attend que à la fin, à 18h, d'une manifestation, un gouvernement annonce par la radio qu'il donne satisfaction à l'ensemble des revendications portées durant la journée. Bon, voilà. Mais comme ça vient d'être évoqué, une chose est qu'il y ait des suites ou qu'il y ait un effet, que le message soit reçu, et un traitement politique, quel qu'il soit, mais un traitement de nature politique par rapport, si c'est le pouvoir politique qui est interpellé. Autre chose est non seulement de faire comme s'il ne s'était rien passé, ou de créer les conditions pour débattre d'autres choses de ce pourquoi les gens sont dans la rue. C'est ça. Ce qui finit par exacerber la colère, les tensions, et encore une fois, invite à rechercher d'autres formes d'expression qui, dans une démocratie comme la nôtre, sont naturellement bien moins reçu par une partie de la population qui très souvent en plus ne connaît pas bien les vrais motifs de cette colère.
Alors, Fabien Jobard, on va venir maintenant plus à la technique même policière de la manifestation, parce que ce que nous dit Bernard Thibault, c'est que le syndicat agrège, constitue un cortège avec des revendications précises, etc. Et j'allais dire, une manifestation, ça se fait à deux, c'est-à-dire qu'il y a les manifestants et leur interlocuteur. Or là, on a l'impression que l'accompagnement à distance de la manifestation, tout d'un coup, ce pacte s'est rompu.
En fait, quand on observe l'évolution de la manifestation depuis plus d'un siècle désormais en France, on est tenté d'y voir une lente pacification. Cette pacification n'a pas été, bien sûr, que le fruit de la réflexion de l'État ou des préfets ou des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés. Il faut reconnaître à la CGT un rôle historique fondamental dans cette pacification. Et notamment lors de la manifestation Ferrer. Ferrer est un pédagogue anarchiste qui est condamné à mort et exécuté à Barcelone en 1909. La CGT, vous vous souvenez que la CGT est très profondément animée par des courants encore anarchistes à cette époque, appelle à la manifestation, et la manifestation est un déferlement de colère et de violence. Pour l'organisation CGT, qui prétend à l'époque avoir un rôle moteur dans l'organisation du travail, la négociation, c'est un camouflet. Et ils organisent une deuxième manifestation et pour la première fois prennent contact, c'est leur initiative, avec le préfet de police à Paris pour s'entendre sur un horaire de départ et un itinéraire, et ils mettent en place des services d'ordre.
Pour prouver leur respectabilité.
Absolument.
Pour prouver leur crédibilité.
Absolument. Et prouver sa crédibilité politique, ça passe par, d'un point de vue tactique, démontrer qu'on est capable de contrôler ses propres troupes. Le problème aujourd'hui, un siècle après, c'est bien sûr que nous payons dans la rue la désagrégation du mouvement syndical. Au fond, le mouvement des Gilets jaunes revient au pouvoir comme un boomerang. Emmanuel Macron est quelqu'un qui a toujours promu un modèle de société dans lequel les corps intermédiaires n'auraient plus la place qu'ils avaient auparavant, au premier rang desquels d'ailleurs les syndicats. Et il a promu également, sous l'appellation Startup Nation et autres, un modèle dans lequel, au fond, le salariat lui-même est appelé à être remis en cause parce que trop lourd, pesant sur le développement de la France, l'innovation, la créativité, etc. Et les gilets jaunes qu'on a vus pendant un an et demi dans les rues des villes de France et sur les ronds-points, c'est un petit peu, au fond, l'incarnation de cette société lorsqu'elle proteste. Pas d'organisation, pas d'appel même à manifester. La volonté de ne pas être représenté, car le soupçon de trahison, désaffection à l'égard du vote, puis soupçon de trahison à l'égard des organisations syndicales. Et du coup, on a eu la protestation, finalement, que Emmanuel Macron et tous ceux qui ont contribué à la libéralisation du travail, l'affaiblissement du salariat en France, n'ont pas appelé de leur vœu, bien sûr, mais ont sans doute, quelque part, mérité.
Bernard Thibault, vous vous retrouvez, ancien responsable national de la CGT, dans cette histoire brossée par Fabien Jobard?
Oui, bien sûr, je remarque aussi que aujourd'hui encore, je pense que les manifestations sont organisées de manière tout à fait différente selon qu'on se trouve dans la capitale, dans les grandes villes ou dans certaines villes de province. Je veux dire par là qu'il y a encore aujourd'hui, à ma connaissance, des contacts qui existent, et c'est heureux, entre des responsables syndicaux et les services préfectoraux chargés du maintien de l'ordre. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir sur cette notion qui est peut-être
Allez-y, Bernard Thibault. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette notion?
Il faut s'entendre sur quel ordre on doit maintenir. Voilà, c'est ça ma préoccupation. On parle de force de maintien de l'ordre, mais S'il s'agit de maintenir l'ordre économique existant, par exemple, naturellement, on va contester de fait l'idée même que des manifestants viennent contester l'ordre économique. Donc, on n'est pas sur un des agents de maintien de la paix, en quelque sorte, mais du maintien de l'ordre. Et de quel ordre parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de l'ordre politique en place, de l'ordre économique en place ? Bon, c'est pour ça que cette notion... Mais ce que je voulais évoquer, c'est que cette proximité, entre guillemets, en tout cas cette relation, à mon avis, nécessaire, entre des responsables syndicaux, donc représentatifs d'un groupe de personnes qui sont organisées, qui ont d'ailleurs des statuts, ils sont déclarés en préfecture, bref, ça fait partie de nos dispositifs démocratiques. Et des responsables préfectoraux est tout à fait nécessaire. Et ça se passe en général de manière beaucoup plus pacifiée en province, dans les plus petites villes de province, que dans les grandes agglomérations où là, je pense que le poids du politique l'emporte, et où, encore une fois, les forces de police ne faisant qu'exécuter les ordres qui viennent d'en haut. Et parfois, ça peut venir de très haut.
Fabien Jevard,
oui, effectivement, policier. Je pense que ça, c'est une des dimensions très fortes de du maintien de l'ordre tel qu'on le pratique en France. C'est-à-dire la mainmise du politique jusque les salles de commandement des différentes agglomérations françaises. Ça, c'est une caractéristique très forte. Il y a tout un ensemble de pays, notamment les pays de tradition de common law, mais également l'Allemagne, dans laquelle, au fond, le politique exprime des vœux, des souhaits, mais laisse les professionnels concevoir et agir du début jusqu'à la fin. Et cette politisation du maintien de l'ordre est d'autant plus forte, bien sûr, à Paris, qui sont concentrés l'ensemble des organes gouvernementaux, mais également, avant l'arrivée des réseaux sociaux, les organes médiatiques. Et donc, on peut s'autoriser, longtemps on a pu s'autoriser dans les villes hors de Paris, des dégradations, des destructions, des feux, alors que à Paris, l'ordre doit être maintenu jusqu'au moindre centimètre carré. Ce qui change dans cette disposition-là, c'est le rôle des chaînes d'information. C'est là qu'on retrouve vraiment le pouvoir de l'image. Parce qu'aujourd'hui, le moindre feu de poubelle dans une ville de province est immédiatement relayé par les chaînes d'information. Et vous le savez, dans les cabinets ministériels, les écrans de télévision sont allumés en permanence. Et donc, vous êtes toujours susceptible, en tant que responsable policier, mettons, à Nantes, à Lyon ou à Grenoble, d'avoir un coup de, en tant que préfet à Lyon, Nantes ou Grenoble, d'avoir un coup de fil du cabinet du ministère qui vous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, faites-moi cesser ça.
Le politique craint aussi des images.
Bien sûr, parce que il craint d'être interpellé, non pas sur ce qui s'est véritablement passé dans la rue, mais sur les images qui ont été diffusées. Et il y a une distance très forte entre ce qui se passe et les images qui tournent en boucle. Tourner en boucle, c'est vraiment une expression qu'il faut prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, le feu de poubelle va être mis, remis, un peu comme le remix qu'on a entendu tout à l'heure. Et on a le sentiment que pendant une heure ou deux, la ville est à feu.
Et Bernard Thibault, ça vous qui êtes à l'étranger, qui vous côtoyez des gouvernants ou des syndiqués d'autres pays européens, ça abîme beaucoup l'image de la France, ces manifestations et ces débordements policiers.
Oui, c'est évident, parce que la circulation de l'image qui vient d'être évoquée par Fabien Jevard, elle ne se limite pas, bien évidemment, aujourd'hui, aux frontières nationales. C'est aussi des diffusions d'images. D'ailleurs, à l'extérieur, à l'étranger, je dirais, des exploitations politiques aussi possibles de la part d'autres pays. Dans certains pays, on diffuse là aussi en boucle sur certaines chaînes d'information les images des émeutes de quartier que l'on évoquait tout à l'heure, avec des cartes de France laissant entendre que... la France entière est en flammes. On a vu des images sur les chaînes d'information américaines qui faisant apparaître le continent européen avec une France enflammée, totalement enflammée. Alors c'était à la fois un événement, mais c'était complètement disproportionné par rapport aux événements qui se déroulaient réellement. Et ces dernières années, l'évolution remarquable de mon point de vue, c'est une incompréhension à l'égard de ce qui se passe en France dès lors qu'il y a des manifestations. et depuis plusieurs gouvernements.
Et qui a atteint un sommet.
A une réputation. Je siège pour ma part à l'Organisation internationale du travail, qui est donc l'agence spécialisée des Nations unies chargé de promouvoir le progrès social à travers la planète. Il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est évident. Mais c'est donc une instance où siègent des représentants de la totalité des États, des représentants syndicaux de chacun de ces États et des employeurs de chacun de ces États.
Vous constatez cette dégradation de l'image de la France.
Oui, sur l'image, Bernard Thibault, il y a quand même quelque chose qui est neuf aujourd'hui, c'est que j'ai dit que dans les cabinets ministériels, les télévisions sont en permanence allumées, sans le son, mais ça permet directement aux politiques d'interagir avec le préfet, qui lui-même, évidemment, est en lien avec le directeur du service d'ordre. Mais lorsque vous entrez dans une salle de commandement dans un département français, vous avez l'ensemble des caméras de vidéosurveillance qui vous montrent ce qui se passe dans la ville. Et puis en bas à droite, vous avez un autre écran qui diffuse les images de la chaîne d'information en continu. Et vous voyez bien que donc les personnes qui dirigent l'action des forces de police, elles ont deux sources d'images. Elles ont l'image des manifestants et de leur propre force. Et puis, elles ont l'image du récit qui est produit pendant l'événement par la chaîne d'information en continu.
Oui, on peut penser que le récit tel qu'il constate sur l'écran de la chaîne d'information en continu peut avoir plus d'influence sur leurs décisions à venir que la manière dont la manifestation se déroule elle-même.
Bien sûr.
France Culture,
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Qui continue de débattre avec Fabien Jobard et Bernard Thibault de la question des violences policières. Et Bernard Thibault, qui vous avez choisi de nous faire entendre le Boléro de Ravel. En l'occurrence, il est interprété par le Philharmonique de Berlin sous la baguette de Pierre Boulez. C'est un lien avec la manifestation, le Boléro de Ravel?
Ah bah écoutez, c'est bien sûr une musique très très ancienne qui se joue dans le monde entier. J'ai même lu que c'était un des morceaux les plus diffusés dans le monde entier. Alors que Ravel, paraît-il, ne croyait pas trop au succès de ce morceau. Et je l'ai choisi parce que, de manière imagée bien évidemment, ça me fait penser peut-être à la progression d'un... la constitution d'un cortège, la progression d'une manifestation, voilà, et on pourrait le mettre en parallèle avec une journée de manifestation, ce morceau de musique, que je trouve très, très joli.
Ça rappelle d'ailleurs aussi la proximité qu'il y a entre la marche manifestante et puis la marche militaire. Et un point m'avait frappé pendant les manifestations Gilets jaunes, notamment les premières, novembre, décembre, encore janvier, l'absence de musique. Et j'ai pris conscience à ce moment-là, peut-être plus tardivement que d'autres, que les camions sonos qui diffusent la musique ont aussi pour avantage de discipliner les manifestants, d'organiser, d'indiquer une direction, d'indiquer un tempo, d'indiquer des pauses, des reprises, des relances.
C'est ça.
On voit bien
de créer une ambiance.
Absolument.
C'est
absolument.
Ça. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que là, on tourne autour du pot, ce qui concerne les manifestants, les émeutes urbaines, Fabien Jobard, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de préoccupant aujourd'hui? C'est que dans l'esprit de certains manifestants, il y a cette idée que seule la violence paye désormais.
C'est un autre aspect de la discussion que nous avons eue sur la perte d'influence des corps intermédiaires et leur moindre capacité à organiser des manifestations.
Ça va plus loin. Ça veut dire que c'est le récit lui-même, c'est l'idée même d'un contrat qui est très affaibli. C'est-à-dire quand même, on pourrait dire une désymbolisation quand on arrive au point où il n'y a plus que ça qui marche.
Bien sûr, mais c'est aussi une lecture des 20 dernières années ou des 25 dernières années depuis cette fameuse déclaration de d'Alain Juppé qui conférait au nombre le pouvoir de faire changer les lois. Puisque l'on dit la rue ne gouverne pas, à ce moment-là, d'autres ont imaginé d'autres modes de mobilisation et on s'est rendu compte que la zone à défendre, la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, a contribué également par l'affrontement, des affrontements répétés avec les forces de l'ordre, à faire échouer le projet.
Donc là, la violence a payé.
Beaucoup, énormément même. Parmi les intellectuels, parmi les savants, les sociologues aussi, défendent la thèse selon laquelle les émeutes urbaines ont fini par payer. Vous savez, ce discours qu'on entend souvent, selon lequel le 93, la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne sont noyés sous l'argent public parce que eux, ils font brûler des voitures, tandis que nos campagnes et nos villes moyennes sont désertées, abandonnées par les gouvernements successifs, parce que là-bas, on est trop sage. Et ça, c'est une dimension fondamentale aujourd'hui de la perception de l'efficacité des modes d'action politique. Et ça pèse très fortement, tant du côté des manifestants que du côté des gouvernants.
Parce que c'est un constat désespérant pour vous, Bernard Thibault, pour les corps intermédiaires que vous incarnez, pour les syndicats, de savoir que finalement la négociation ne paye plus et que la violence, il y a une prime à la violence.
C'est pas simplement un regret de la part d'un syndicaliste. C'est de mon avis, de mon point de vue, ça nous renvoie à une question plus fondamentale de la société, de ses principes de représentation dans lesquels nous voulons vivre, à savoir, est-ce que nous conservons des outils permettant d'organiser la confrontation des points de vue, et quand je dis confrontation des points de vue, dans une démocratie, on accepte l'idée que sur un même problème, il puisse y avoir des approches différentes, ou que l'on puisse critiquer le bien fondé de telle ou telle orientation économique, politique, sociétale, en l'occurrence, ou on conteste cette hypothèse de se donner des outils performants permettant d'organiser la confrontation des opinions dans un cadre démocratique, selon des procédures établies et respectées par tous, ou alors on ouvre les vannes, effectivement, à des comportements dont personne ne sait vers quoi ils peuvent nous mener. Je remarque que dans notre pays, on arrive à un point désormais où une partie de la population se dit choisissons. Et d'autres l'ont fait, d'autres peuples l'ont fait récemment. Choisissons des responsables politiques autoritaires à qui on va donner les pleins pouvoirs pour avoir la paix, la tranquillité. C'est sans doute illusoire, parce que dès lors que de la précarité sociale, cette précarité ne va faire que s'amplifier avec la crise actuelle, elle était déjà bien présente auparavant, mais cette crise ne va faire qu'amplifier les problèmes sociaux. Si on pense résoudre des questions fondamentales par de l'autoritarisme, ça nous prépare de mauvais jours.
On a l'impression, Fabien Jobard, que ce constat, il n'y a que la violence qui paye, j'allais dire qu'il est construit en miroir d'une doctrine policière qui dit il y a que la maîtrise de la violence qui paye, sans chercher à adopter une position, une posture d'autorité beaucoup plus distante et cherchant à faire baisser la tension.
C'est vrai que l'observation des tactiques policières ces dernières années a montré ce qu'on caractérise dans le livre avec Olivier Filleul par le terme de brutalisation, un vrai raidissement qui d'ailleurs doit beaucoup à 25 ans d'émeute urbaine en France. On a vu des forces de police urbaine, on a vu des moyens offensifs employés par la police qui avaient d'abord été pensés dans nos banlieues. Le flashball, le LBD, qui sont des armes qui ont commis les dégâts qu'on sait, hein, plus de 25 éborgnés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des armes qui ont été introduites dans la police nationale, à l'époque par le directeur général de la police nationale, Claude Guéant, en 1995, pour la légitime défense de policiers de brigades anticriminalité intenant sur des points de tension dans nos banlieues. Et aujourd'hui, c'est une arme qui a été massivement utilisée, 13 000 tirs. De balles
qui,
de défense
qui ont incroyablement augmenté
pendant le mouvement des Gilets jaunes.
Alors vous avez intitulé votre livre, Fabien Jobard, Politique du désordre. Politique du désordre, c'est un titre audacieux, provocateur, inquiétant.
Oui, c'est au fond l'idée que le désordre fait partie de notre horizon politique dans les démocraties qui sont les nôtres. La Cour européenne des droits de l'homme caractérise la manifestation sous l'appellation de désordre acceptable. Il faut tolérer un désordre lorsque ce désordre est acceptable. Et donc, il pèse sur les épaules des gouvernants prendre en compte ce mouvement de suspension de la vie ordinaire qu'est la manifestation. Il leur appartient de donner sa place au désordre. Et le refus absolu de toute forme de désordre s'inscrit à l'encontre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et a des conséquences très nettes sur les tactiques policières employées et sur les dynamiques d'escalade avec les manifestants.
Et qui caractérise d'ailleurs la police française par rapport à ses homologues européennes.
Oui, effectivement, il y a des événements qui ont été très marquants à la fin des années 90. Hein, c'est l'émergence du mouvement qu'on appelait à l'époque anti-mondialisation, puis alter-mondialisation. Manifestations très dures à Seattle en 1999, à Gênes en 2001.
Qui étaient internationaux en plus.
Bien sûr, à Göteborg en 2001, lorsque la police suédoise tire sur les manifestants. À partir de ce moment-là, les polices européennes se sont concertées et ont essayé de maintenir une tradition de gestion pacifique des manifestations en dépit même de la présence de groupes offensifs, anarcho-autonomes, Black Bloc, altermondialistes et autres. Or, il se trouve que ces polices qui se sont réunies, qui ont travaillé à l'adaptation de leur stratégie, maintien de stratégie de pacification, eh bien la police française est restée à l'écart de ce mouvement-là, convaincue qu'elle était vraisemblablement que, dans le fond, une police qui a géré mai 68 comme elle a pu le faire, est à l'abri de dérives autoritaires ou de dérives brutales. Et 15 ans après, 20 ans après, la gestion du mouvement de protestation contre la loi El Khomri, la gestion du mouvement des Gilets jaunes, a montré que ce calcul était faux.
C'est un tournant, Bernard Thibault, les manifestations contre la loi travail, sous un gouvernement de gauche en plus.
Oui, c'est un cap important. Moi, j'ai découvert la stratégie du nassage à l'époque, c'est-à-dire un cordon, enfin plus qu'un cordon, un encerclement des manifestants à qui on impose un seul point d'entrée sur un boulevard à un point donné et un seul point de sortie. Toutes les rues adjacentes étant complètement barricadées et vous n'avez aucune possibilité ni d'entrer dans le cortège ni d'en sortir. Et naturellement, quand vous avez, et il y avait beaucoup de monde dans ces manifestations, quand vous avez, il vous suffit de un ou deux individus qui, à un moment donné, lancent ne serait-ce qu'un morceau de bois, une bouteille, que sais-je, un objet sur un policier, et là vous avez immédiatement la consigne de réagir. Conséquence, vous arrosez, au vrai sens du terme, l'ensemble des manifestants, avec des mouvements de foule qui peuvent être très dangereux. J'étais personnellement intervenu dans une bouche de métro, les gens s'entassaient dans l'escalier, c'était assez effroyable.
Ça nous rappelle des choses à Paris. Hein.
Ça rappelle bien sûr la manifestation du 8 février 1962 à Charonne.
Ça a même été un miracle de ne pas avoir eu de drame.
C'est ça.
Et d'ailleurs, je pense, je ne sais pas ce qu'il en pense après coup, mais je suis convaincu pour ma part que ces épisodes, à la fois naturellement le contenu même du projet de loi, la réforme du code du travail, ce qui n'est quand même pas rien dans un contrat social, dans un pays quel qu'il soit. Réformer le code du travail, c'est un aspect très important.
Bien sûr.
Et je suis convaincu que ça fait partie des épisodes qui ont contraint François Hollande à ne pas pouvoir se représenter pour l'échéance qui a suivi.
Cette émission, malheureusement, arrive à son terme. On a traité beaucoup de choses, mais il reste tant à dire. Et je voudrais poser à l'un et l'autre une question sur ce qu'il faudrait faire. Parce que dans le fond, le diagnostic est là. On pourrait l'affiner techniquement, mais je pense qu'on a abordé la question de fond. Alors, Fabien Jobat, des mesures, comment engager une escalade vers quoi ? Un engrenage vers le bien plutôt que cette escalade à laquelle on assiste aujourd'hui.
Remettre la manifestation sur la voie de la pacification suppose, à mon avis d'abord, de reconnaître dans toutes ses conséquences le fait que cette manifestation est aujourd'hui filmée, retransmise dans les foyers, pour ainsi dire, en permanence. Et donc, ça la fait peser une exigence d'exemplarité sur les policiers, qui est à la limite bien plus considérable qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années. C'est absolument fondamental. L'escalade se nourrit de l'image de la brutalité policière. Puis, bien sûr, restaurer la volonté de dialoguer avec les organisateurs et l'ensemble des manifestants durant l'événement.
Bernard Thibault, en une minute, écoutez, moins d'une minute, oui.
Oui, je crois qu'on ne peut pas se satisfaire du rapport, des opinions, des impressions qui existent entre la population, une partie importante d'entre elles, et la police. Et je pense que les forces de police elles-mêmes devraient accepter cette introspection, ne serait-ce que pour mesurer combien le pouvoir politique, on l'a évoqué, quelque part instrumentalise les forces de police dans le déroulement des différents événements sociaux, au point de devenir quelque part un peu otage de ces forces de police. On voit la difficulté de nouer le dialogue en ce moment, y compris dans une introspection qui ne nie pas des évidences. Je pense par exemple à la question du contrôle au faciès. Un rapport récent du défenseur des droits met en évidence que, selon les Français, la deuxième cause pour laquelle il y a le plus de discrimination, c'est, pour la première, lorsqu'on cherche un logement. Beaucoup de personnes disent, là, très souvent, il y a de la discrimination en fonction des origines, en fonction, etc. Et la deuxième cause, la deuxième situation laquelle les Français considèrent qu'il y a le plus de discrimination, c'est lors des contrôles de police. Donc ça nécessite, au moins une introspection qui n'épargne pas, bien évidemment, qui doit responsabiliser aussi le politique.
Merci beaucoup Bernard Thibault, merci Fabien Jobat. Esprit de justice, Fabien Jobat, Bernard Thibault, Élise Le, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Zora Vignier, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous retrouve mercredi prochain, même heure, même antenne, et je vous souhaite une bonne soirée.